Bonjour Norbert Navarro.
Bonjour Nathanaël, bonjour à tous.
Et à la une de la presse française en pleine campagne électorale, ces informations dérangeantes sur le budget du Parlement européen.
Elles sont à la une du journal Le Monde, laquelle une pointe, je cite, les dérives budgétaires du dit Parlement sur la foi d'une note qu'a consulté le quotidien du soir. Le Monde relève ainsi que l'an prochain, le budget du Parlement européen devrait passer la barre symbolique des 2 milliards d'euros, soit l'équivalent de 2,5 millions d'euros par an et par eurodéputé. Ce quotidien souligne que les moyens mis à disposition des eurodéputés et de leurs équipes sont confortables et que les contrôles sur leur travail sont quasiment inexistants. Des informations ramassé sous ce titre, très cher Parlement européen. Dérive budgétaire, Le Monde note ainsi que malgré le passage du nombre d'élus de 751 à 705, du moins si le Brexit finit par avoir lieu, les eurodéputés ont en effet prévu d'augmenter de nouveau leurs moyens de 2,7%. Oui, mais le 26 mai prochain, il s'agira d'élire des députés européens qui auront à défendre et à promouvoir des choix fondamentaux déterminants nos vies quotidiennes, rappelle le journal La Marseillaise. Seulement voilà, déplore ce quotidien de la cité phocéenne, dans cette campagne électorale, les enjeux sociaux, écologiques, écologiques, économiques sont envoyés aux oubliettes au bénéfice d'un concours de bobinettes des ex-présidentiables qui s'affichent désormais aux côtés de leurs candidats devenus défaunés. Macron et d'autres ont décidé qu'on voterait non pour un projet de vie commun, mais sur leur personne et contre X ou Y, regrette la Marseillaise, il nous propose en quelque sorte un nouveau tour de l'élection présidentielle de 2017.
À la une également, le chômage en baisse en France.
Il est au plus bas depuis 10 ans, pointe le Parisien. Il n'avait en effet pas connu plus bas niveau depuis 2009. Le taux de chômage est en léger recul de 0,1 point à 8,7%. En France, si l'on ne comptabilise pas les chiffres de Mayotte, selon des données de l'Institut National de la Statistique dévoilées hier. Sur la seule France métropolitaine, 2 400 000 personnes sont donc considérées comme chômeurs, soit une baisse de 19 000 sur un trimestre. Et le journal La Montagne s'en réjouit. Trouvons là quand même une raison d'espérer dans la courbe du chômage, celle qui était chère à François Hollande, mais sans retour d'affection, celle que Macron défie à son tour. Ce chômage, dans l'angle mort des manifestations du samedi, doit pourtant rester un sujet de préoccupation majeure en juin, ce quotidien du centre-sud de la France. François Hollande, justement, le journal L'Union souligne que ce reflux devrait, en toute logique, être porté au crédit du précédent président, puisque c'est lui qui a mis en place une série de réformes dont on peut imaginer qu'elles ont fini par porter quelques fruits, ou du moins qu'elles n'ont pas trop détérioré la situation, au crédit de Hollande, mais aussi de son ministre de l'économie de l'époque. Un certain Macron complète l'Union.
Et revoilà l'affaire Benalla avec de nouvelles révélations sur un proche de l'ex-chargé de mission de l'Élysée, l'homme d'affaires français Jean-Louis Aguenauer.
Mediapart le présente comme le personnage clé du volet russe de l'affaire Benalla. Ce journal en ligne révèle que Jean-Louis Aguenauer est directement connecté au service secret russe, qu'il est associé financièrement avec un ancien lieutenant-colonel des 10 services secrets, le FSB. Il entretient depuis plusieurs années des liens étroits, en effet, avec Vladimir Pronichev, numéro 2 du FSB, entre 2003 et 2013. Il s'est mobilisé pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron en 2017 et il est lié financièrement à un bar de nuit moscovite du nom de K-19 situé juste en face des locaux du FSB. Tiens, un établissement visé par une enquête pour des faits de proxénétisme. Enfin, Jean-Louis Aguenauer est présenté par Mediapart comme un proche du député Olivier Dassault, mais aussi un proche de Thierry Mariani ou encore de Martin Bouygues.
Mais la grande affaire de la presse française ce matin, Lambert, c'est le probable assouplissement de la limitation de vitesse sur les routes de France.
Eh oui, le 90 km/h revient, clame le Parisien. Le Premier ministre fait marche arrière. Pourtant, rappelle ce quotidien, c'était son bébé, sa mesure emblématique. Édouard Philippe s'est pourtant finalement résolu à ouvrir la voie à un assouplissement des 80 km/h, annonçant qu'il était prêt à laisser au département la responsabilité de fixer la vitesse maximale sur leur route. Un sacré changement de pied pour le Premier ministre qui jusque-là avait défendu contre vents et marées cette très impopulaire limitation de vitesse, rappelle le Parisien. Et dans les territoires, on ne parle que de ça. En toile de fond de la crise des gilets jaunes, la presse quotidienne régionale résonne en écho sur cette marche arrière annoncée du gouvernement. Édouard Philippe, soi-disant droit dans ses bottes, a finalement reculé sur les 80 km/h qu'Emmanuel Macron soutenait du bout des lèvres. Relève ainsi le journal Le Télégramme, 6 mois après le début de la crise des gilets jaunes, l'exécutif semble avoir perdu son cap, énonce donc le journal Le Télégramme, qui en matière de cap t'y connaît, parole d'orfèvre.
Merci beaucoup, Lambert Navarre.